Alors bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Je ne sais pas si c'est très intéressant de se présenter, mais bon, Isabelle et Guillaume, Margot, on est mariés depuis environ 41 ans. Voilà, on habite Aix-en-Provence. Merci. J'ai quelques casquettes de missionnaire, de pasteur, missionnaire, où j'accompagne des gens en difficulté depuis 35 ans. Voilà, c'est un peu l'essentiel de mon activité. Je ne sais pas s'il faut dire trop de choses là-dessus, parce que sinon on en a déjà pour un quart d'heure. Et puis je suis aussi directeur des programmes d'un petit institut biblique, dans la Drôme, dans l'Ardèche, pardon. C'est tellement proche, la Drôme et l'Ardèche. Et puis, je suis aussi écrivain. Voilà, alors peut-être c'est le moment de présenter ça, un premier livre que vous pourrez trouver aux éditions Oasis. J'en ai pas amené. Ici, j'ai fait un roman sur Job, en montrant ce qui me semblait de Job au recto, sur toutes les souffrances de Job, et au verso, comment est-ce qu'il a pu s'en sortir. Voilà, donc c'est mon regard, en fait, de pasteur sur Job. J'ai fait un... Et c'est vrai que ça touchera plutôt des gens qui ont souffert. J'ai fait un livre sur l'apôtre Paul, qui est aussi un roman, et qui, dans lequel j'ai voulu montrer simplement tout ce que Paul a voulu dire et écrire après l'avoir expérimenté. Donc dans toute sa vie, voilà, il a été confronté à différentes choses. Je dirais que la première chose à laquelle il a été confronté, c'est de devoir s'éloigner en quelque sorte de la loi de Moïse et de venir à quelque chose qui était pour toutes les nations. Et c'est pour ça qu'il a écrit l'Épître aux Galates. Et donc j'ai voulu dans ce livre montrer un peu tout ce que Paul a voulu nous transmettre. Et puis, dans ce troisième livre, Le piège du spiritisme, parler un peu d'une partie de mon ministère pour répondre à des gens qui s'étaient englués dans le spiritisme, qui ont des contacts avec les esprits, qui font tourner les tables, etc. Et donc, j'ai fait un roman aussi sur ce que la Bible pourrait dire. Elle en parle très, très peu de ce monsieur Séva en Acte 19, qui avait sept fils qui exorcisaient. Et donc, au recto, j'ai fait ce roman sur ce qui a pu se passer à Éphèse à ce moment-là, et au verso, mon travail d'exorciste. Voilà. Donc ça, c'est pour me présenter. Mais de toute façon, c'est l'œuvre de Dieu. Et j'ai bien conscience que, ici, chacune et chacun, vous êtes toutes et tous à l'œuvre de Dieu, quel que soit notre âge. Alors, j'avais pensé, depuis qu'on avait parlé de cette rencontre avec Jean-Pierre et Christine, ici, vous parler de comment mettre Dieu au centre de notre projet. Comment mettre Dieu au centre de notre projet. Et ce que j'ai chanté et entendu ce matin, avec « je suis fort, Dieu est le Dieu de l'impossible. » Et « mais je viens vers toi, mais approche-toi un peu de nous, en fait. Ça impacte, ça percute en moi, comme probablement en vous tous. Finalement, pourquoi est-ce que, comme le frère l'a dit en introduction, par moments, on sent que c'est pas si évident que ça, en fait, hein, que je sois fort, que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et donc, je vous propose de lire un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, qu'il faudra écouter tranquillement. Parce que on pourrait trouver qu'il est dur, ce texte. Mais ce texte, c'est La parole d'un père, en fait, d'un vrai papa. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais en attendant, presque personne en Israël ne lui faisait confiance. Bizarre, non? Et s'il se souvenait de ce qui avait eu lieu dans leur histoire commune, en fait, alors ce n'était pas un problème pour Dieu de les faire sortir d'Égypte, de leur faire passer la mer Rouge, de faire qu'il y ait de l'eau dans le désert, qu'il y ait des cailles pour manger. Ce n'était pas un problème. Mais par contre, quelque part, tout devenait problème pour eux. Et donc, j'aimerais que dans cette perspective-là, on écoute bien ce texte d'Ésaïe. Et qu'on entende ce que Dieu veut nous dire à chacun. C'est donc un oracle de l'Éternel. Malheur aux fils rebelles. C'est un peu terrible d'entendre ça. Malheur aux fils rebelles. Mais j'ai bien entendu dans la prière d'une sœur qu'on péchait tous. Il me semble, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, malheur aux fils rebelles? Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous punir? Ou que nous nous punissons nous-mêmes, en fait? Est-ce que ça veut dire que Dieu dit « je vais faire arriver malheur sur ceux qui sont rebelles » Ou bien est-ce que ceux qui sont rebelles font arriver leur malheur? Ça, c'est pas pareil, ça. Ou il y a peut-être des deux aussi. Malheur aux fils rebelles, dit l'Éternel, ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit. Ça veut donc dire que choisir quelque chose, envisager quelque chose, avoir des projets, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est normal, c'est la vie. Mais il faut le faire avec l'Esprit de Dieu. Alors, d'abord, est-ce qu'on croit que c'est possible? Est-ce que, puisque Dieu nous reproche ça, un vrai papa dont les entrailles frémissent, puisque Dieu nous dit, et il le dit à tout le monde, hein, là, c'était dans une période de l'histoire d'Israël assez faste, hein, c'était vers 750 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas eu encore de grandes catastrophes comme ce qui est arrivé après. Vous savez, Ésaïe, c'est le livre du prophète qui avertit. Jérémie, c'est le livre du prophète qui constate. Et Ézéchiel, c'est le livre du prophète qui va encourager. Et donc, dans Ésaïe, il y a des avertissements. Et des avertissements qui nous montrent qu'on est capable de faire quelque chose. On est toutes et tous capables. Mais ils contractent des alliances sans mon esprit, ils tiennent conseil sans moi. C'est un peu comme si on voulait jouer au clavier sans électricité. On peut essayer, hein? Mais il y a quelque chose d'aberrant, hein? C'est comme si on voulait rouler en voiture sans essence, ou bien... Mais pour nous, on se réserve cette possibilité tous les jours, en fait. Comment est-ce qu'on peut envisager de faire des choses sans l'Esprit de Dieu? Je dirais que la première des choses, c'est certainement de choisir de le faire avec lui, mais de s'organiser pour qu'on le fasse avec lui. Est-ce que, par exemple, on a un moment dans la journée, le matin, qu'on va consacrer au Seigneur pour rentrer en relation avec lui, pour nourrir notre réflexion, lire la Bible pour comprendre et aussi pour choisir quelque chose, lui étant témoin qu'on choisit quelque chose avec lui. Et quelque part, chaque fois qu'on ne le fait pas, alors non seulement, je ne vais pas dire qu'on le déshonore, mais quelque part, ça veut dire que cet appel qu'il nous fait à faire les choses avec lui, on s'en fiche un peu. Mais on va venir le dimanche et chanter qu'il est le Dieu de l'impossible. Mais le lundi matin, on va dire la vie est dure. Personne ne m'aime, personne ne me reconnaît, je ne suis pas utile, j'ai des tas de problèmes avec les gens, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière d'être avec le Dieu de l'impossible. Et pourtant, l'Éternel dit, alors ils tiennent conseil sans moi, verset, pour accumuler péché sur péché. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sans Dieu, pour être un peu brutal, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus de ça, ça nous fait du mal. C'est dur, hein? Oui. Mais c'est la parole d'un vrai père, en fait. Et quelque part, ce petit temps qu'on pourrait passer avec le Père du Ciel, avant le café, après le café, ça dépend des gens, hein? Mais quelque part, cultiver cette relation. Bon, y a une chose qui m'a toujours taquiné, c'est que Dieu est appelé Abraham son ami. Et pas moi. Alors d'accord, il n'est pas question de moi dans la Bible, mais est-ce que Dieu me considère comme son ami? Est-ce que je le fréquente? Est-ce que je lui fais connaître toute ma vie? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie dans lesquels je ne lui demande pas d'intervenir? Est-ce que je lui demande de me montrer qui il est dans tous ces domaines de ma vie? Ça, c'est un peu les bases d'une véritable amitié. Mais ils tiennent conseil sans moi pour accumuler péché sur péché. C'est pas que Dieu nous reproche ce que nous faisons, c'est qu'il nous reproche de ne pas le faire avec lui. Ça, c'est très différent. Parce que ce qu'on fait avec Dieu, ça produit de la réussite. La réussite, c'est de le faire avec Dieu. La réussite, ce n'est pas ce qui nous arrive. On ne peut pas juger dans ce qui nous arrive si c'est de la réussite ou l'échec. Mais quelque part, parce qu'on le fait avec Dieu, alors oui, c'est de la réussite. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge auprès du Pharaon. Alors je pense qu'ici, personne n'a commandé un billet d'avion pour l'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils descendent en Égypte? Ça veut dire qu'on va, parce que les choses ne vont pas bien, trouver un refuge, de la force, une compensation, avec quoi? Ça peut être avec la musique. Ça peut être avec un coup de fil à quelqu'un, ça peut être avec le fait d'aller acheter quelque chose, parce qu'on se dit, oh, allez, je vais me faire un peu plaisir. Quelque part, au départ, il y a ce manque d'appréciation sur ce que va produire cette relation avec Dieu. Oui, oui, j'ai décidé, le matin de ma journée, de m'associer à Dieu dans cette journée. Un peu comme Jésus qui disait, Évangile de Jean chapitre 5, « Je ne fais que ce que je vois faire à mon Père. » Ah oui, mais on se dit, nous, lui c'est Jésus et nous c'est nous, on ne va pas quand même se comparer à Jésus. Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc on peut se comparer au Père Céleste. Éphésiens 4, 32, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu par le Christ vous a pardonné. Waouh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre la barre haut, il s'agit de définir notre cap, ça oui. Mais on se considère comment en fait? Est-ce qu'on se considère comme un incapable? Ou est-ce qu'on se considère comme une fille, un fils de Dieu, qui fait ce qu'elle ou il a à faire? Point. Est-ce qu'on a conscience que, comme dit Hébreux 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? C'est-à-dire que s'associer à Dieu dans notre journée, vivre la foi, alors ça, comme disent les jeunes, Dieu kiffe. Ah oui, je pense que Dieu aime quand on vient près de lui, quand on vient pour le rencontrer. Et dans tous ces chants que nous avons chantés, alors Dieu est puissant, il est le Dieu de l'impossible. Mais je sais que je suis fort. Mais pourquoi je ne le mets pas en pratique ? Ça ne veut pas dire que Dieu enlèvera toutes les circonstances difficiles de notre vie. Mais ça veut dire que parce que je le vivrai avec lui, ça a du sens. Ça me dirige vers quelque chose, je participe à son œuvre. J'apprends des choses. On va reprendre au verset 8, « Viens maintenant, dit Dieu à Ésaïe, écris ces choses devant eux sur une tablette et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour, éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle. » Autrement dit, ce qui nous paraît très simple, il faut l'apprendre. Parce qu'apparemment, cette marche avec Dieu, elle n'est pas si simple que ça. Autrement dit, ce qu'il nous faut apprendre, une fois qu'on en a un peu connaissance, il faut le garder, en fait. Cette vie de piété, la piété, c'est la qualité de l'âme de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et quand on lit en Genèse 5 que Enoch marcha avec Dieu 300 ans, on dit, mais ça ne me parle pas du tout, en fait. C'est-à-dire que ce que Dieu apprécie chez nous, c'est de marcher avec lui. Le frère a dit en introduction, quand on me demande comment je vais, ben, quand on me demande, à peu près, hein, quand on me demande comment je vais, si je marche avec Dieu, je peux dire, ben, j'ai un cancer, je suis obligé de vendre ma maison, mais Dieu est le garant de ma vie. Ça change tout, ça. C'est-à-dire que marcher avec Dieu, c'est donner à Dieu cette, finalement, possibilité d'être le Dieu de l'impossible. Mais nous, ou en tout cas c'est ce que je remarque dans les 3000 personnes que j'ai accompagnées en 30 ans, c'est qu'il y a toujours un moment où elles s'arrêtent, ces personnes. Où elles s'arrêtent. C'est-à-dire que oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Ah ouais, je le chante de tout mon cœur et j'aime venir louer Dieu dans l'église avec mes frères et mes sœurs et le faire dans une véritable sincérité en fait. Mais dès que j'ai quitté l'église, je vais râler parce que la porte est fermée, je vais râler parce qu'il y a 17 voitures qui passent et que je ne peux pas m'engager, je vais râler parce qu'en fait, la personne qui est à côté de moi me dit « mais vas-y ». Et j'ai envie de lui dire « mais tu ne te rends pas compte comme la vie est compliquée ». Oui, mais quand même, tu viens de chanter que Dieu était le Dieu de l'impossible. C'est nous qui sommes compliqués. Hein. Je crois que le dernier verset d'Ecclésiaste 7, c'est « Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Alors jeune fille, ne te complique pas la vie. » Ça, c'est important. Et dans des textes aussi anciens que ceux-là, 750 avant Jésus-Christ, on a quelque chose d'absolument simple et contemporain. C'est pour aujourd'hui, en fait. Mais ces gens-là, chapitre 30, verset 9, c'est un peuple rebelle, ce sont des fils indociles, indociles, des fils qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Par exemple, dans une version un peu littérale, Colossiens 4, 12 dit que Épaphras combat pour nous par des prières, afin que nous demeurions parfaits et bien assurés dans la volonté de Dieu. Ah! Mais si on faisait un petit sondage, est-ce que vous croyez plutôt à « personne n'est parfait » ou à « que nous demeurions parfaits » ? Je vous taquine un tout petit peu, hein, mais pas beaucoup. Parce que ça, c'est une expression qui a tout son enjeu, en fait. C'est quoi la perfection devant Dieu ? C'est de faire ce qu'il nous demande. Mais nous, on se considère imparfait tout le temps, en fait. On est toujours un peu en deuil sur nos personnes. Ah ouais, mais si vous saviez... La question, c'est de faire ce que Dieu nous demande. La question, ce n'est pas de se juger soi-même. C'est de faire ce que Dieu nous demande. C'est ça, la perfection. La perfection, dans les Épîtres, c'est le perfectionnement. Parce que demain, je serai encore mieux qu'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est dommage que je prêche aujourd'hui. Il vaudrait mieux attendre demain. Mais bon. Mais c'est la foi qui nous conduit, en fait, dans cette relation avec Dieu qui fait que je me pose. Mais ces gens-là, nous dit ce verset 9, ils ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Alors j'espère que tout à l'heure, vous vous direz au revoir en disant « Au revoir, cher parfait. » Le juste tombe 7 fois et se relève, nous dit Proverbe 24, 16. Il tombe 7 fois en fait. Il faut arrêter de dire que le péché entame notre perfection. Non, la perfection, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Alors allons-y. Oui, mais c'est trop simple ce que tu nous dis. Ah oui, mais c'est écrit. Ces gens-là sont des fils indociles. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Je suis au verset 10. Ils disent aux visionnaires, n'ayez pas pour nous de vision exacte. Dites-nous des choses flatteuses. Ah. Alors qu'est-ce qu'on préfère en fait? De dire que tout va bien quand tout va mal? De dire qu'on est faible? Je crois que j'ai aussi entendu que la puissance de Dieu s'accomplit dans l'infirmité. C'est-à-dire que qu'en fait, quand je suis infirme quelque part, eh bien Dieu va accomplir quelque chose dans mon infirmité, ce qui fait que je choisis de ne pas souffrir dans mes infirmités. Alors bien sûr, j'étais en groupe de jeunes dans une ville du nord-est, et je disais aux jeunes de se dire un peu la vérité. Et j'avais une jeune fille de 18 ans à ma gauche qui faisait des études de médecine. Et je lui dis, ben, dis-moi la vérité, dis-moi ce que tu penses en ce moment. Et elle me dit, je ne peux pas te blairer. Bon. Et je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, tu souris tout le temps et ça m'énerve. Et elle me dit, mais j'ai l'impression que tu souffres jamais. Alors, je lui dis, mais si tu as une heure, je peux te parler de mes souffrances, en fait. Mais la question, c'est, est-ce que la puissance de Dieu s'accomplit dans mes infirmités ou pas? Ces gens-là ne veulent pas entendre ce que dit le Seigneur. Et nous, en bons chrétiens, on va construire des choses sur ce que nous pensons, ce que nous avons entendu. Mais est-ce qu'on prend le temps de le vérifier? Vous voyez la couverture de cette Bible? Vous voyez que j'ai pris le temps de le vérifier. C'est je ne fais pas de critique à la maison d'édition qui a fait une couverture comme ça. Je veux dire que cette vie de piété, il faut la construire. Moi, j'ai commencé à lire toute la Bible, jeune fille, à l'âge de 29 ans. Tu n'as pas encore 29 ans, toi. J'ai commencé à lire toute la Bible à 29 ans. Je ne sais pas si tu as déjà lu toute la Bible. Eh bien, fais-le, tu auras de l'avance sur moi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour vivre la confiance avec Dieu, cette amitié, en fait, mais il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il faut construire cette relation. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fils rebelles? Verset 12, c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, c'est Dieu. Et moi, il va falloir que je m'arrête quand même. Mais ça va, j'ai encore 10 minutes. Un peu plus. Verset 12, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous refusez cette parole. Mais c'est incroyable le nombre de fois dans notre vie on refuse cette parole. Faites quelque chose de simple. Prenez une grande feuille blanche. À gauche, vous marquez toutes vos souffrances. Toutes. Celles qui reviennent jour après jour. Et vous faites un trait. Et en face de chaque souffrance, demandez-vous pourquoi vous souffrez en fait. Et demandez-vous si par hasard, dans cette souffrance, il n'y aurait pas une absence en fait. Quelque chose qui vient de Dieu qui devrait faire que, ben oui, on arrête de se faire souffrir. Genre, ma vie n'a pas de sens. Ben si, elle a du sens. Genre, c'est toujours sur moi que tout arrive, en fait. Ben non. Parce que Dieu, non seulement il est le Dieu de l'impossible, mais il n'y a rien qui arrive sans qu'il l'ait permis. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous refusez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui. Eh bien, ce travail de la feuille blanche, ça fait 35 ans que je le fais, depuis que j'ai compris en fait. Depuis que j'ai compris qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête avec la violence et les détours. Et que je comprenne en quoi est-ce que je me fais souffrir. Et si je comprends en quoi est-ce que je me fais souffrir, non seulement dans le sens où je ne cultive pas ma relation avec Dieu, mais dans le sens où je compte sur des mauvaises choses pour me faire du bien. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont vieux. J'étais chez le médecin généraliste il n'y a pas un an. Et donc, on a eu 65 ans. Ma généraliste me dit « Comment ça va ?» Je lui dis « Ça va très bien. » Mais j'ai compris que je rentrais dans la catégorie des vieux. Elle me dit « Ah oui, vous avez tout à fait raison. » Parce que c'est justement vers cet âge-là que ça commence à aller particulièrement mal dans notre corps. Bon, mais il n'y a pas de journée dans laquelle je dis « Seigneur, ça doit avoir du sens de vieillir, puisque tu le permets. » Ce qui fait que vieillir, ce n'est pas une souffrance. Vieillir, c'est aussi accepter de vieillir et vivre ma vieillesse, c'est mettre Dieu au centre de mon projet. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent moins bien après 60 ans. Bon, heureusement qu'on a des gens qui réparent, les dents, les yeux, les oreilles, Mais ces gens qui réparent, il ne faut pas que ça soit une compensation. Il faut qu'on aille à la base, dans cette relation avec Dieu, dans cette piété, dans cette vraie communion, qui va faire que oui, il se passera quelque chose. Le fait de ne pas, verset 13, aller régulièrement avec le Seigneur, eh bien, fait dire, cette faute sera pour vous comme une partie lézardée du mur qui menace, qui ruine. Et fin du verset 13, l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Verset 15. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Je suis sûr que c'est loin de nos prières journalières. Nous, on voudrait qu'il n'y ait plus ça, qu'il n'y ait plus ça, qu'il n'y ait plus ça, qu'il n'y ait plus ça. Mais ce n'est pas dans le il n'y a plus ça que ça va bien. C'est dans le retour à Dieu. C'est dans cet engagement que nous prenons personnellement devant Dieu de cultiver la relation et la présence. Dans le retour à Dieu et le repos. C'est-à-dire, pour utiliser une expression un peu triviale, arrêter de se prendre la tête. C'est incroyable comment on se prend la tête. Avec tout, en fait. On va dire, quelqu'un vous dira, c'était bien à l'église ce matin? Et vous direz, il faisait trop chaud, la sono marchait pas bien, la dame chantait trop fort, et puis, etc. C'est incroyable comment on se prend la tête, en fait. C'est dans le retour à Dieu et le repos. C'est-à-dire, en fait, il faut travailler à ce retour à Dieu et à un moment donné laisser faire en fait. Par exemple, le souci. Vous savez, bien sûr, je ne vous apprends rien, hein, qu'il existe trois passages fondamentaux sur le souci. Matthieu 6, Éphésiens 4 et 1 Pierre 5. On apprend ça en école du dimanche, hein, pas vrai? Et donc, non? Et donc, dans Matthieu 6, on est en souci parce que on a peur qu'on nous enlève quelque chose. Je ne commande pas plus. Hein. Dans Éphésiens 4, on est en souci parce que on expose nos requêtes à Dieu, mais on ne croit pas qu'il va en faire quelque chose. Ça, c'est terrible. Et dans 1 Pierre 5, il nous est dit de rejeter le souci sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a soin de nous. Donc, quelque part, on se prend la tête. Mais pas vous. Hein. On se prend la tête parce que on a mis comme cap qu'en fait Dieu prend soin de nous. Et que quand on lui expose nos prières, alors c'est lui qui s'occupe de la chose après. C'est dans le retour à Dieu et le repos. C'est ça le repos. Se faire du souci, j'espère que je ne vais pas vous choquer, c'est un péché. Se faire du souci, c'est abandonner le temps de la confiance à Dieu pour se réfugier dans une espèce de mécanisme intellectuel à deux balles qui sert à rien en fait, se faire du souci. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, d'après mes meilleures estimations. Oui, jeune fille? C'est le premier jour de la semaine? Tu pensais à autre chose. Et donc, cette semaine-là, eh bien, oui, je l'ai remise dans les mains de Dieu. Cette journée, je l'ai remise dans les mains de Dieu. Ok. Alors, quelque part, c'est mon repos et c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où j'ai demander au Seigneur d'intervenir pour quelque chose, alors il va le faire. Quand? En arabe, on dit manarche. Ça veut dire je ne sais pas. Hein, j'ai appris ça à mes 14 ans quand j'ai habité au Maroc. Et donc, c'est ça, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Comment vas-tu? Très bien. Oui, mais je vois que tu as plein de problèmes. Oui, c'est vrai, j'ai plein de problèmes. Alors, comment est-ce que tu peux dire que tu vas très bien? C'est parce qu'en fait, je cultive ma relation avec Dieu. Il est mon vrai Père, il est mon garant. Et en plus de ça, il me montre qu'est-ce que je peux faire dans la semaine. De ce fait, j'ai une force, celle de vivre ce que j'ai à vivre dans le moment où j'ai à vivre. Alors, mettre Dieu au centre de mon projet, c'est le rencontrer. C'est laisser découler en moi toutes sortes de choses. La consolation, la direction, la puissance, des portes qui s'ouvrent. Mettre Dieu au centre de mon projet. Et quel que soit ce qui pourra arriver, parce que ma responsabilité n'est pas dans ce qui arrive. Dans ce qui arrive, souvent, je n'ai aucune responsabilité. Ma responsabilité, elle est dans le fait de non seulement cultiver cette relation, mais aussi de croire ce que Dieu me dit. Alors, il y a peut-être des choses que je n'ai pas abordées ou sur lesquelles j'ai passé trop vite. Si vous avez des questions, des remarques, oui, vas-y. Il faut arrêter de se compliquer la vie. Merci de votre écoute.